L'EM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette neuvième saison, l'invité du LEM, la première partie qu'on peut réécouter le lendemain à 8h30. Aujourd'hui, c'est géologie. Nous sommes dans le désormais labellisé Géoparc d'Armorique, label UNESCO, vous le savez. Ça fait donc longtemps que sur Transistor, on s'intéresse aux roches et minéraux de notre territoire. Et aujourd'hui, cependant, on va s'échapper assez loin de la Bretagne, même si c'est en compagnie d'un géologue de l'Université de Brest, Gilles Chazot, qui, lui, s'est intéressé à une curiosité géologique d'Afrique. Bonjour, Gilles Chazot.
Bonjour.
Vous êtes intéressé à ce qu'on appelle l'œil de l'Afrique, on dit aussi structure de Richat. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble déjà pour un profane d'extérieur ?
Alors oui, c'est une structure géologique très spectaculaire puisque c'est un cercle, c'est une structure circulaire qui fait un peu plus de 40 km de diamètre et qui est donc constituée de couches de roches concentriques. Depuis un centre dans lequel il y a une brèche un petit peu informe. Mais ensuite, on a une succession de roches concentriques, des roches qu'on appelle à la fois des roches sédimentaires et des roches magmatiques.
Il y a plusieurs couleurs, en fait.
Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de roches, il y a plusieurs duretés de roches. C'est d'ailleurs pour ça que certaines ont résisté à l'érosion, d'autres moins. Donc certaines sont en relief, certaines sont en creux, et c'est ce qui donne cet aspect en cercle concentrique assez extraordinaire. Oui.
C'est quand même un peu surélevé, hein. Enfin, quand on est au sol...
C'est très peu surélevé. Quand on est sur place, on voit à peine les reliefs, parce que c'est très grand, 40 km de diamètre, ça fait une structure très grande. Les zones en bosse, en relief, font quelques dizaines de mètres de haut, pas plus. Donc en fait, sur place, c'est pas très spectaculaire. Par contre, vue de dessus, là, ça prend tout son aspect spectaculaire. Oui.
Et on la voit de l'espace, elle est photographiée.
Oui, la structure de Richat est un des objets les plus photographiés depuis l'espace, depuis les missions Gemini, les missions de la NASA. En 1965, la mission Gemini 4 a photographié pour la première fois cette structure de Richat. Parce que les astronautes l'ont remarqué depuis l'espace, l'ont trouvé tout à fait spectaculaire. Et depuis, toutes les missions spatiales photographient la structure de Richat, parce que c'est une des structures géologiques les plus spectaculaires qu'on peut voir de l'espace. Oui.
Richat, ce n'est pas une personne, hein, ce n'est pas le découvreur.
Des appellations locales en fonction, qui parlent de la topographie locale. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que Richat, c'est en Mauritanie.
Oui, c'est à peu près au milieu, c'est ça ?
Voilà, c'est en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, c'est au milieu du désert mauritanien.
Dans le Sahara, en fait.
Dans le Sahara, la Mauritanie est un vaste pays dont la plus grande partie est désertique. Et Richat est situé dans le désert, il n'y a aucune ville, aucun village à proximité de Richat. Pas de végétation, c'est complètement désertique, oui.
Et ça voudrait dire, Richat, ça voudrait dire plume, je crois, dans le langage local.
Oui,
enfin, on sait pas trop, en fait.
Plume, ouais. En fonction des reliefs, mais ouais. C'est un petit peu. Il y a plusieurs possibilités.
De même qu'il y a eu des légendes, enfin forcément cette structure, est-ce qu'on a cru à un moment que c'était un artefact d'origine humaine? Non, quand même pas.
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part les aspects légendes. Puisque beaucoup, et encore maintenant, hein, si on va fouiller sur Internet, on trouve des tas de sites qui nous disent que Richat, la structure de Richat, est la localisation de l'ancienne Atlantide. Donc cette fameuse cité décrite par Platon. Alors pourquoi les gens la situent un petit peu là-bas? Parce que Platon la situe au-delà des colonnes d'Hercule. Et les colonnes d'Hercule qui, pour certains, seraient situées dans le détroit de Gibraltar. Et donc, si en partant de la Méditerranée, on franchit les colonnes d'Hercule, on bascule vers le sud, le long de la côte mauritanienne, le long de la côte africaine, en fait, on arrive, si ensuite on rentre dans les terres, on arrive vers ce que Platon décrit comme une cité circulaire,
Ah, c'est pour ça.
Entouré d'eau, de bassins circulaires aquatiques. Et la structure circulaire de Richat a bien sûr tout de suite fait penser à ça. Et donc, il y a tout un tas de gens qui assurent et qui démontrent sur Internet le fait que la structure de Richat est l'ancienne Atlantide.
Oui, enfin, la dernière fois qu'il y a eu la mer réellement dans cet endroit qui est quand même loin de la mer aujourd'hui, c'était quand
C'était il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années.
Voilà, donc, les humains n'existaient pas.
Alors, on trouve des traces d'occupation humaine à Richat. Notamment, il y a beaucoup d'artefacts acculés, hein, donc c'est des outils qui ont entre 1 million et 200 000 ans à peu près. Donc, il y a eu de l'occupation humaine, mais comme il y en a eu dans des tas de régions en Afrique, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, pour certains, Richat pourrait aussi être une ancienne structure extraterrestre.
Oui, voilà, bien sûr. J'attendais.
De toute façon, vu la forme complètement spectaculaire qu'elle a, forcément, ça a attiré pas mal de légendes et d'explications plus ou moins fantaisistes, on va dire.
Et scientifiquement parlant, on a longtemps cru que c'était un cratère de météorite, c'est ça ?
Oui, on a longtemps cru que c'était un impact de météorite. Donc, il y a eu beaucoup de débats au début, dans la première moitié du XXe siècle, on va dire. Cette structure de Richat, elle a été cartographiée dès les années 20. Dès les années 1920, sur les premières cartes géologiques de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été visitée dans les années 30, notamment par Théodore Monod. Donc le fameux scientifique, explorateur français qui était professeur au muséum, Théodore Monod. Et donc dès 1934, je crois, il est allé visiter la structure de Richat. Il y est retourné un grand nombre de fois. Et notamment en 1998, sa dernière expédition dans le Sahara, c'était pour aller visiter Richat. Il devait avoir 96 ans à l'époque. Et il est retourné sur Richat. Voilà, jusque dans les années 60-70, il y avait encore des partisans de la théorie de l'impact de météorites, notamment parce qu'il avait été soi-disant découvert des minéraux, des grains de quartz d'un aspect très particulier qui ne se forment qu'à très haute pression. Donc les gens ont dit, si on a ces quartz de haute pression, c'est qu'on a eu l'impact d'une météorite. Et en fait, au début des années 70, il a été démontré définitivement que ce n'était pas un cratère d'impact de météorite.
Il y a plein de roches d'ailleurs qui composent cette structure. Combien il y en a enfin...
Alors, il y a deux types de roches. Il y a des roches sédimentaires, qu'on appelle des grès. Alors des grès, ce sont d'anciens sables qui ont été cimentés.
On en a beaucoup d'ailleurs chez nous aussi.
On en a beaucoup aussi chez nous. Et puis, il y a des calcaires, donc des carbonates de calcium, des calcaires de calcium ou de calcium-magnésium, des dolomites, peu importe. Donc ça, ça forme une succession de couches sédimentaires qui sont très vieilles. Ces couches sédimentaires, elles datent de ce qu'on appelle du néoprotérozoïque, c'est-à-dire en gros entre 1 milliard d'années et 540 millions d'années.
Ah oui, en effet, avant la vie quasiment.
Voilà, pas avant la vie, mais avant la vie pluricellulaire abondante sur Terre. En fait, le néoprotérozoïque, c'est ce qui arrive juste avant le paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire. Là, effectivement, où la vie se diversifie considérablement dans les océans. Donc ça, ce sont des roches très anciennes, des roches sédimentaires.
Elles ont quelle couleur en gros, celles-là ?
Alors, ce sont des roches très claires. Les carbonates sont blancs, gris, les grès sont légèrement jaunâtres. Et puis, au milieu de ces roches sédimentaires, intercalées dans ces roches sédimentaires, il y a des roches magmatiques. Alors, il y en a de deux types, trois types même. Il y a ce qu'on appelle des gabbros. Il y a deux anneaux concentriques de gabbros. Alors, le gabbro, c'est une roche magmatique. C'est l'équivalent d'un basalte, mais qui a cristallisé lentement en profondeur.
Donc, magmatique, c'est pas tout à fait volcanique, hein, on est d'accord. Hein.
Alors, si les roches magmatiques se forment, comme leur nom l'indique, à partir d'un magma, mais dans les roches magmatiques, il y a deux familles. Celles qui cristallisent à la surface rapidement, ce sont les roches volcaniques. Et celles qui cristallisent lentement en profondeur, ce sont les roches plutoniques.
Et, alors là,
et donc le gabbro, c'est une roche magmatique plutonique parce qu'elle a cristallisé en profondeur. Donc il y a ces deux anneaux concentriques de gabbro. Et puis il y a des filons, qu'on appelle souvent on utilise le terme anglo-saxon de dike. Ces filons, ils sont constitués de carbonatites. Alors les carbonatites, c'est une roche magmatique tout à fait particulière. Puisque l'immense majorité des roches magmatiques sont constituées en majorité de silice, Dans les carbonatites, il n'y a pas de silice, il y a des carbonates, comme leur nom l'indique.
Donc c'est noir, je suppose, non ? Même pas ?
Alors, c'est très variable. C'est très variable.
Bon, d'accord, ok.
Mais ce sont des carbonates, sauf que ce ne sont pas des carbonates sédimentaires, ce sont des carbonates d'origine magmatique. Donc ça, c'est des roches très particulières. Qui forment donc ces filons qu'on trouve en grand nombre à Richat. On en a compté plusieurs dizaines. Et puis, il y a un troisième type de roche magmatique qui est ce que l'on appelle une kimberlite. Alors, cette kimberlite, elle n'affleure pas. Elle a été trouvée parce qu'à une époque, il y a une compagnie minière qui a fait quelques sondages.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et oui. Et ils ont trouvé une roche qu'on appelle une kimberlite. Alors, les kimberlites, ce sont des roches magmatiques aussi, volcaniques. Qui ont une particularité, c'est que ce sont les roches sur Terre dans lesquelles on trouve des diamants.
Ah, je comprends pourquoi on a fourré.
Voilà, c'est un petit peu pour ça qu'ils ont cherché. Manifestement, ils n'ont pas trouvé de diamants parce qu'ils ont rebouché le sondage qu'ils avaient fait. Donc les kimberlites, elles n'affleurent plus à la surface, elles ne sont plus visibles à Richat.
Donc autant de témoins d'une longue vie, hein, évidemment. Hein.
Voilà, alors d'une longue histoire, puisque donc, les sédiments... Ils se sont déposés lorsqu'il y avait la mer à cet endroit-là, donc des graisses et des plages, des épandages de grains de sable. Les carbonates, ce sont des sédimentations carbonatées dans une mer chaude, calme. Donc tout ça, c'était il y a plus de 500 millions d'années. Et puis ensuite, la mer s'est retirée, le tout s'est soulevé. Les couches sédimentaires étaient à peu près horizontales. Et est arrivé le magmatisme. Alors... Pour faire simple, il y a du magma qui s'est mis en place en profondeur, à quelques kilomètres de profondeur. Et lorsque ce magma s'est mis en place, il a soulevé les couches au-dessus. Donc les couches sédimentaires étaient horizontales. Le magma s'est mis en place à quelques kilomètres de profondeur. Il a soulevé les couches.
Mais il n'est pas sorti ?
Et il n'est peut-être pas sorti. On ne sait pas exactement. Mais ensuite, si on a soulevé ces couches qui étaient originalement à l'horizontale et qu'on érode progressivement à la surface, eh bien, on voit les couches qui affleurent sous la forme de cercles concentriques.
D'accord, c'est comme une bulle qu'aurait soulevé la Terre, en fait,
voilà, c'est
ça.
Ça, on a soulevé les couches et ensuite on a érodé la surface et donc ça forme ces cercles concentriques que l'on voit aujourd'hui à la surface.
Et pourquoi c'était important donc, de ce que vous avez fait avec Bernard Le Gall, de dater plus précisément, alors ce n'est pas totalement précisément, mais plus précisément.
Alors, oui, pourquoi le dater ? Parce qu'il y avait eu des âges qui ont été obtenus sur ces roches et qui localisaient, précisaient la mise en place de ces roches magmatiques il y a 100 millions d'années. Les roches qui avaient été datées, c'était principalement ces filons de carbonatite dont on a parlé, et puis quelques minéraux formés dans les brèches sédimentaires au centre de la structure. Pour nous, le problème, c'est que les dikes de gabbro et les carbonatites, ce sont deux types de magma complètement différents qui, normalement, ne peuvent pas se former ensemble. Alors, pour être un petit peu technique, les dikes de gabbro, c'est ce qu'on appelle un magmatisme toléitique. Et les cercles concentriques de gabbro, ce sont un magmatisme toléitique. Les dikes de carbonatite, c'est un magmatisme qu'on appelle alcalin. Et normalement, les deux ne vont pas ensemble. Et nos prédécesseurs qui ont travaillé sur Richat ont daté les carbonatites et ils ont dit, ben voilà, tout le magmatisme de Richat s'est mis en place il y a 100 millions d'années.
Et donc, vous dites non.
Pour nous, ça ne collait pas. Okay. Pour nous, ça ne collait pas. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on date, puisque les carbonatites avaient été datées à 100 millions d'années, on s'est dit qu'il faut qu'on date les gabbro. Il faut qu'on date les gabbro, qu'on sache ce magmatisme toléitique, à quelle période de l'histoire de la Terre il s'est mis en place. Pour nous, il ne pouvait pas s'être mis en place il y a 100 millions d'années, en même temps que les carbonatites.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ?
C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est compliqué de dater une roche. Déjà, on ne peut pas dater n'importe quel type de roche. On ne peut pas dater, ou très difficilement, les roches sédimentaires, par exemple.
Sauf quand il y a des fossiles, en fait.
Sauf quand il y a des fossiles. Mais même quand il y a des fossiles, on date, quand on trouve un fossile, on sait que tel fossile a vécu à telle époque parce qu'à d'autres endroits sur Terre, on a trouvé les mêmes fossiles et qu'on a pu dater à quelle époque ils avaient vécu en datant des roches volcaniques qui se sont mises en place, soit juste au-dessus, soit juste au-dessous.
Ça, on peut les dater plus facilement.
On peut les dater. En fait, ce qu'on date facilement, entre guillemets, le facilement, ce sont des roches qui sont passées par un état fondu, donc des roches magmatiques.
Mais donc les gabbro,
donc les gabbro sont passés par un état fondu, donc on s'est dit, on va les dater. Sauf que ces gabbros, ils sont anciens, et donc ils ont été altérés. D'autant plus que ce qui se passe quand on met un magma en profondeur, un magma, c'est une énorme source, c'est une énorme masse de roches en fusion à très haute température, 1000, 1200 degrés. C'est ce magma, lorsqu'il refroidit, il relâche des gaz. À la surface, il pleut, l'eau de pluie s'infiltre, lorsqu'elle s'approche du magma, elle se transforme en vapeur d'eau, en gaz, et elle remonte vers la surface. Donc vous avez toute cette circulation de gaz à haute température, ça c'est ce qu'on appelle un système hydrothermal.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
Et ce système hydrothermal, il va modifier les roches, il va les altérer, il va altérer certains minéraux et permettre la cristallisation d'autres minéraux.
Mais ça, ce système hydrothermal, enfin moi je connaissais ça sous la mer, mais il faut qu'il y ait un milieu maritime ou pas spécialement en fait ?
Non, pas d'accord. Spécialement. Ouais. Les fluides qui circulent dans le système hydrothermal, dans ce cas-là, si on est sur Terre, ils proviennent à la fois du magma, parce qu'il y a du gaz contenu dans le magma qui va s'échapper et qui va circuler à travers les roches, et des eaux météoritiques, des eaux de pluie qui s'infiltrent dans la roche et qui se réchauffent en s'approchant du magma.
Et ça, ça rend difficile la datation ?
Oui, parce que ça modifie les roches qui sont au-dessus. Donc, ces gaz, ces fluides hydrothermaux, ils ont circulé à travers nos fameux gabbros et ils ont provoqué la cristallisation de nouveaux minéraux, des amphiboles, des minéraux de plus basse température à 300, 400 degrés, qui complexifient la datation de la roche. Donc, ce qu'on a fait, on a prélevé ces gabbros, on les a broyés, on en a extrait un des minéraux qui nous intéresse, c'est le feldspath, le plagioclase. Et ce plagioclase, on l'a envoyé à un collègue qui travaille dans une université en Australie, qui est un Français d'ailleurs, qui a fait ses études en France et qui a eu un poste depuis déjà une vingtaine d'années en Australie, et qui est un spécialiste de la datation par le système argon-argon. Donc, pour dater les roches, on va utiliser le principe de la désintégration radioactive. Dans les plagioclases, il y a du potassium. Et ce potassium, il est constitué de plusieurs isotopes. Et parmi ces isotopes, le potassium 40 est radioactif et se désintègre en argon 40.
Sur une période, quoi.
Sur une période connue. Connue. Et donc,
c'est comme la datation carbone 14.
C'est comme la datation carbone 14, la datation uranium plomb, rubidium strontium. On a à notre panoplie tout un tas de méthodes de datation par la radioactivité. Le carbone 14, c'est un aspect un peu spécifique parce que le carbone 14, il ne permet de dater que de la matière organique, du bois, des eaux, des choses comme ça. Et sur une période très courte, quelques dizaines de milliers d'années. L'avantage du potassium 14, de l'uranium plomb et autres, du potassium 40, pardon, c'est que ça nous permet de dater des objets qui ont plusieurs centaines de millions d'années, voire même plusieurs milliards d'années.
Et alors, qu'avez-vous trouvé ?
Et donc, on a daté les gabbros, et même si l'âge n'est pas bien précis, au lieu de trouver 100 millions d'années comme ce que nous avaient prédit nos prédécesseurs, on a trouvé 200 millions d'années.
Donc, un autre épisode.
Donc,
en fait.
Un autre épisode, et ça nous va bien. Parce que ça veut dire que ces gabbros, ils se sont mis en place il y a 200 millions d'années lors d'un épisode avec l'arrivée d'un magma de composition toléitique. Et 100 millions d'années plus tard, donc il y a 100 millions d'années, un nouveau magma est arrivé qui, lui, était de composition alcaline et a permis la mise en place de ces dikes de carbonatite.
Alors ce magma, il faut nous dire aussi d'où il vient.
Alors d'où il vient ? 200 millions d'années, c'est pas un âge inconnu en Afrique. C'est même l'âge d'un épisode magmatique à la surface de la Terre tout à fait extraordinaire qu'on appelle la CAMP. Alors CAMP, en anglais, ça veut dire Central Atlantic Magmatic Province, c'est-à-dire la province magmatique de l'Atlantique central. Alors des roches volcaniques et plutoniques de 200 millions d'années, on en trouve sur toute la côte est de l'Amérique du Nord. On en trouve sur toute la côte nord de l'Amérique du Sud, notamment en Guyane, au Brésil. On en trouve sur toute la côte ouest de l'Afrique de l'Ouest. On en trouve un petit peu en Espagne. Et on en trouve un témoin en Bretagne, avec ce qu'on appelle un dike, donc un filon, qui est localisé à Brenterre, donc un petit peu au nord de la petite ville du Conquet. Et effectivement, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, il y a un groupe de géologues italiens qui a échantillonné ce dike à Brenter, qui l'a daté. Ils ont trouvé, comme par hasard, 200 millions d'années.
Voilà.
Alors, ce magmatisme, il est un petit peu partout. Donc, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique de l'Ouest, Europe. Si on referme l'Atlantique, eh bien, ça ne forme qu'une grande province magmatique et qu'on appelle ou qu'on appelait, puisque le terme est un petit peu tombé en désuétude maintenant, ce qu'on appelait une province de trappe. Mmh. Ce qu'on appelle maintenant une grande province magmatique. Et ces provinces de trappe, ben, on les connaît bien. Et notamment, on en connaît quelques-unes très précisément, notamment les trappes du Deccan. Les trappes du Deccan, ils se sont mis en place il y a 65 millions d'années. Et ils sont
soupçonnés,
suspectés
forcément
d'être en partie, pas uniquement, mais en partie à l'origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années.
C'est comme un volcanisme géant, c'est ça, enfin, pour...
Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une province de trappe? C'est lié à ce qu'on appelle un point chaud dans le manteau, c'est-à-dire du manteau terrestre anormalement chaud. Qui dit anormalement chaud dit plus léger, moins dense. Donc ce manteau terrestre à l'état solide, il remonte. Il remonte le long d'un cylindre qui fait quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et lorsque ce manteau anormalement chaud arrive sous la lithosphère, c'est-à-dire la partie rigide de la surface de la Terre, à quelques dizaines de kilomètres de profondeur, ce manteau anormalement chaud, il fond partiellement et il donne naissance à d'énormes quantités de magma. Qu'est-ce que c'est que les trappes du Deccan, par exemple? C'est des millions et des millions de kilomètres cubes de magma qui se mettent en place, alors dans une période géologiquement courte, qui est inférieure à un million d'années, on va dire.
Donc
alors,
ça fait beaucoup de sorties de lave,
voilà,
quand même.
C'est
quoi.
Une voilà. succession de milliers et de milliers d'éruptions volcaniques qui vont se succéder sur une surface qui peut être grande comme la France, hein, et pendant des centaines et des centaines de milliers d'années.
Donc qui crée de la poussière, enfin,
donc qui envoie des cendres, etc. Envoie tout un tas de produits chimiques dans l'atmosphère, qui modifie le climat, la composition chimique des océans, la composition chimique de l'atmosphère. Les grandes provinces de trappe, c'est le Deccan, il y a 65 millions d'années, c'est la disparition des dinosaures. On connaît une très grande province de trappe en Sibérie, il y a 250 millions d'années.
L'extinction du Permien.
Qui est l'extinction du Permien-Trias, avec une des plus grandes crises biologiques de l'histoire de la Terre. Et donc, il y a 200 millions d'années, cette immense province de l'Atlantique central qui se met en place avant que l'Atlantique ne se forme et ne sépare l'Amérique du Nord du continent européen et l'Amérique du Sud du continent africain.
Et elle a fait moins de dégâts, celle-là, sur la vie, apparemment.
Elle a fait moins de dégâts, mais il y a quand même des, on va dire, une crise biologique qui date de cette époque, mais qui est moins importante que celle que l'on a connue il y a 250 millions d'années ou il y a 65 millions d'années. Mais la province magmatique est gigantesque. Et donc, si on revient à Richat, l'âge de 200 millions d'années que l'on trouve à Richat nous permet de raccrocher ce magmatisme à cet épisode de la province magmatique de l'Atlantique centrale qui s'est mise en place il y a 200 millions d'années.
Donc c'était un peu la naissance, si on veut, de la structure de Richat. Enfin...
C'était la structure de Richat s'est formée à ce moment-là. Et d'ailleurs, on est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ces gabbros, on en a analysé la composition chimique. En détail, tout un tas d'éléments chimiques. On l'a comparé aux roches magmatiques de la province de l'Atlantique centrale et c'est absolument identique. Et ça nous confirme que cette province de Richat est bien liée à la province magmatique de l'Atlantique centrale.
Donc, si on reprend l'histoire complète de l'œil de l'Afrique, on a donc la naissance, c'est ça. Alors, quel est le paysage, en gros, quand ça, il y a 200 millions d'années
Il y a 200 millions d'années, difficile à savoir. Il y a sans doute des mers intérieures à cet endroit-là en Afrique. On ne sait pas très bien, parce qu'il y a eu pas mal d'érosion. Il y a eu pas mal d'érosion par la suite. En tout cas, des roches sédimentaires anciennes, puisqu'on a vu que les roches sédimentaires dans la région, elles datent de plus de 550 millions d'années. Et donc, il y a 200 millions d'années, il y a du magma qui s'injecte en profondeur et qui forme ce qu'on appelle des cils, c'est-à-dire des couches de magma, le gabbro, qui s'injecte entre les roches sédimentaires.
Ah oui.
Et peut-être rien à la surface. On n'en sait rien, parce que s'il y avait quelque chose, s'il y a eu du volcanisme à la surface à cette époque, il a été érodé. Mmh. Et puis, plus rien ne se passe.
Enfin, plus rien ne se passe.
De magmatique.
Pendant 100 millions d'années. Donc là, c'est quoi ? C'est une érosion qui est plutôt... c'est à sec, plutôt, non ?
Principalement. Il y a sans doute eu des épisodes marins sur tout le nord de l'Afrique, à cet endroit-là.
Donc c'est le vent, on va dire, qui érode.
Voilà, mais il y a eu des épisodes marins avec des mers intérieures peu profondes.
Quand même, d'accord.
Et puis, de nouveau, un soulèvement. Et donc, il y a 100 millions d'années, un nouveau magma arrive, une grosse masse de magma se met en place en profondeur.
Donc là, c'est plus la camp.
C'est autre chose. On ne sait pas trop à quoi relier ce magmatisme exactement, mais bon, peu importe. Ça c'est d'autres qui s'intéressent à ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on soulève les couches sédimentaires, que le système hydrothermal se met en place. Ce système hydrothermal, il va altérer les gabbros, qui se sont mis en place 100 millions d'années plus tôt. Le magma va s'injecter pour former les filons de carbonatite. Et ce système hydrothermal, comme ce sont des gaz souvent très acides, ils vont dissoudre les carbonates. Et donc, on a soulevé les roches. Les carbonates, qui sont facilement solubles dans l'acide, disparaissent. Et les couches de grès vont s'effondrer. Et on va ainsi éroder, former une brèche au centre et former cette structure circulaire où l'on voit apparaître les couches sous-jacentes et notamment nos deux anneaux concentriques de gabbro.
D'accord. La suite au prochain épisode, en fait.
La suite au prochain épisode.
Là, ça s'érode à nouveau. Enfin, on est en période calme. Est-ce qu'il y a d'autres structures comparables dans le monde ?
Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais la plupart sont moins spectaculaires, notamment parce qu'elles sont plus petites. Là, 40-45 km de diamètre, c'est vraiment grand. Et puis, parce qu'elles sont moins complètes, elles sont érodées en partie. Là, elle est quasiment complète. On a le cercle complet, c'est grand. Mais il existe des tas d'autres structures circulaires de ce type-là, y compris en Afrique, on en connaît d'autres. Mais Richat est vraiment la plus connue parce que la plus spectaculaire.
Et vous y êtes allé en vrai, je suppose ?
Pas encore.
Ah, et ça va être l'objectif.
C'est prévu à l'automne.
Bon,
donc
super.
Là, on a un étudiant mauritanien qui a échantillonné là-bas, qui nous a ramené les échantillons, qui est venu faire sa thèse avec moi ici. Et on a une mission prévue pour un complément d'échantillonnage à l'automne 2024.
Oui, donc vous continuez 2025. À travailler
sur... Oui, il y a encore des choses qu'on n'a pas compris, donc on va continuer à travailler dessus.
Et d'autres énigmes qui vous tentent éventuellement ailleurs ?
Plein.
Comme vous aviez écrit un livre sur les merveilles de la Terre.
Oui, donc il y a plein de merveilles qui attendent encore leur explication, et heureusement, c'est ce qui nous motive au quotidien.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Et c'était donc une interview enregistrée cet été, car l'automne, nous y sommes, et vous allez pouvoir la réécouter, cette interview, sur le site internet de Transistor, bien sûr.